Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro d'À vous les Burgiens, nous allons parler des violences faites aux femmes. Ce samedi 23 novembre, une marche contre les violences est organisée à Bourg-en-Bresse. Nous serons avec Clémence Raguet, organisatrice de la manifestation et créatrice de l'association Putain de Guerrière qui aide les victimes de violences conjugales. Elle a quitté il y a 4 ans un mari violent dans les Hautes-Alpes et s'est installée à Bourg-en-Bresse pour refaire sa vie il y a 1 an. Elle va partager avec nous son témoignage et parler de son association. Ensuite, nous irons à la rencontre de Pauline Monin, chorégraphe et danseuse de la compagnie Inanna. Elle a créé un nouveau spectacle, La rivière sous la rivière, qui parle d'une jeune fille victime d'une agression sexuelle. Pauline Monin nous parlera de son histoire personnelle qui a inspiré ce conte chorégraphique. Et en dernière partie d'À vous les Burgiens, nous changerons totalement de sujet avec la gastronomie. Camille Grangeard est partie à la rencontre de Gérald Ligonnet, chef cuisinier de la brasserie Le Français à Bourg-en-Bresse, et de Yann Le Squezec, directeur de la laiterie d'Étré. Camille Grangeard a fait une interview croisée des deux Burgiens sur les produits de nos terroirs.
Radio B.
Depuis le mois de septembre et jusqu'au 25 novembre, c'est le Grenelle des violences conjugales, une sorte de réunion de travail organisée par Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Fin octobre, le groupe d'experts de ce Grenelle a dévoilé plusieurs propositions pour améliorer la lutte contre les violences conjugales, comme par exemple réquisitionner les armes des conjoints visées par des plaintes. Mais elles sont jugées insuffisantes pour de nombreuses associations. Des manifestations sont alors organisées samedi 23 novembre à l'appel du collectif Nous Toutes. À Bourg-en-Bresse, c'est l'association Putain de Guerrière 01 qui a mis en place la manifestation. Clémence Raguet, sa créatrice, est notre invitée. Elle a elle aussi été victime de violences conjugales.
J'ai partagé 5 ans avec un homme violent. J'ai eu plusieurs fois l'envie de partir, mais c'était compliqué. J'ai 2 enfants, on en a un en commun. Il menaçait souvent que si je partais, ben, il garderait son fils et que je garderais le mien, qui séparerait nos enfants. Il menaçait de me tuer, évidemment, si je partais, qu'il me retrouverait, qu'il me laisserait jamais tranquille. Donc tout ça, plus le climat de terreur dans lequel on vit, ont fait que ben, ça a duré 5 ans et que j'ai pas pu m'en aller avant. Et puis il y a eu la fois de trop. Il y a eu une fois où je me suis retrouvée KO au sol. Dans ma cuisine à 7h30 du matin devant mes enfants. J'ai eu un petit moment où j'ai eu une phase où j'étais un peu inconsciente. Ça n'a pas duré très longtemps, je pense. Et du coup, c'est le cri de mes enfants qui ont eu peur, qui m'ont ramené à moi. Et là, ce jour-là, je me suis dit, c'est aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, je vais le faire et que je vais avoir le courage et que je vais partir. Donc c'était compliqué parce qu'il était très malin. Souvent, ces hommes-là, ils font en sorte de nous emprisonner, à savoir que ben, j'étais quand même active, je travaillais, j'avais une entreprise. Donc ils gardaient ou la clé de ma voiture, ou une de mes cartes bleues, ou la carte grise de la voiture, ou mon fils, pour être sûr que ben, je ne puisse pas lui échapper et m'échapper. Et puis ben, ce jour-là, j'ai réuni mon courage et j'ai trouvé des prétextes en disant bah, « écoute, il faut que je fasse des courses, il faut que j'annule des rendez-vous, donc j'ai besoin de mon téléphone, ma carte bleue, il me faut la clé de la voiture ». Il m'a tout laissé et il est parti pour travailler lui aussi. Et du coup, je n'ai pas perdu de temps. Ce jour-là, j'ai appelé les gendarmes, j'ai appelé au secours. Ils sont arrivés chez moi en peu de temps et j'ai réuni les affaires de mes enfants dans 2 sacs de linge. Et une heure après, on est parti, on était en pyjama, mais on est parti.
Au début de cette relation avec votre ancien conjoint, je suppose que il n'était pas violent, vous ne l'avez pas vu venir.
Comment non, ça s'est non, passé? Non, du tout. Ben, j'arrive à en sourire maintenant et souvent je dis aux personnes qui me disent « mais comment ça se fait que tu as été vers un homme comme ça ?» Ben, bizarrement, c'était pas écrit sur son front. Attention, je vais te faire vivre la misère et je vais te fracasser pendant 5 ans. Évidemment, c'était tout le contraire. Hein, quand on s'est rencontrés, c'était digne d'une histoire de conte de fées. Hein, le prince charmant, l'homme idéal, plutôt bel homme, très, très gentil avec mon fils. Il y avait absolument rien qui vous pouvait présager ce qui m'attendait. Et puis après, ça a commencé insidieusement. Une fois qu'il était installé chez moi, il a commencé à émettre quelques jalousies, à faire attention à la façon dont je m'habille, à faire des remarques sur cette façon de m'habiller, à surveiller même mes fréquentations, à faire du tri dans mon entourage. Puis tout ça s'est fait insidieusement. Et puis il avait cette façon de se justifier en disant que toutes les femmes avant moi lui avaient été infidèles. Donc en fait, je me suis vue plus dans la, on va dire, dans la peau de l'héroïne qui va le sauver en disant « bah non, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et oui, ton passé à toi est difficile, mais à nous deux, on va faire une famille et puis ça va aller. » Et je pensais vraiment en plus que j'allais arriver à lui faire enlever tous ses doutes. Et puis je suis tombée enceinte plutôt assez rapidement. Ça faisait pas tout à fait un an qu'on était ensemble, donc de mon deuxième enfant. Et à partir de là, j'étais coincée.
Le déclic, ce moment où vous perdez connaissance, quelles sont les démarches que vous avez eues pour sortir de son emprise, en quelque sorte ?
Alors en fait, souvent, quand on n'y est pas confronté, on pense que le plus dur, c'est de partir. J'ai envie de dire d'un sens, et c'est tant mieux. Mais en fait, le plus dur, c'est après. Parce que c'est très compliqué. Du coup, moi, j'ai voulu déposer plainte. Donc déjà, le premier jour, je suis partie. Je me suis fait héberger par une amie où il ne pouvait pas me trouver. Le second jour, j'ai vu mon médecin traitant qui m'a ausculté et qui m'a fait un certificat médical. C'est très, très important, ça, dans la démarche pour pouvoir déposer plainte. Donc, qui a constaté l'étendue de mes bleus et qui a dressé un ITT. Je me suis enfuie, j'ai changé de département et je suis revenue 5 jours après parce qu'il n'y a pas une nécessité de déposer plainte tout de suite si on a d'abord besoin de prendre de temps, ce qui a été mon cas. Et je suis revenue 5 jours après pour déposer plainte. Une plainte qui a duré à peu près 4 heures où j'ai encore une fois essayé de presque lui trouver des excuses. C'était le père de mon fils, je ne voulais pas priver mon fils de son père, parce que pour moi, c'est 2 personnes dans le même corps. Et donc, du coup, j'ai insisté dans ma plainte en disant « je ne veux pas qu'il aille en prison, je veux qu'il soit soigné pour que mon fils puisse avoir des rapports convenables avec son père et en toute sécurité ». Et c'est vrai que je n'ai pas tout dit. J'ai minimisé ce qui s'est passé. Du coup, il a été jugé quelques mois après, pour ce que j'ai dit. Et puis, un an après, j'ai repoussé la porte d'une gendarmerie pour cette fois finir de vraiment tout raconter. Et cette fois, je n'ai rien oublié.
En 2019, plus de 88 Françaises ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et pourquoi ces femmes ne fuient pas le danger ?
Là, aujourd'hui, on en est déjà à 135 femmes qui sont mortes. C'est énorme. C'est plus que toutes les autres années. Je pense que ce qui déraille, c'est le moment justement de la séparation. C'est finalement le moment où c'est le plus critique, puisque du coup, c'est à ce moment-là qu'elles sont tuées, ce qui fait qu'elles ne sont pas protégées en fait. Quand on dépose plainte, même si derrière on demande une ordonnance de protection, ce qui a été mon cas, et dans mon cas ça a été plus ou moins vite, il a fallu que j'attende 40 jours. Et même une fois que je l'avais, ça n'empêchait pas mon ex-conjoint d'être tous les jours omniprésent en bas de chez moi, partout où je me trouvais. J'avais beau appeler la gendarmerie, il ne faisait rien. Il était juste là, comme il disait, les gendarmes. Et du coup, ça n'a rien changé pour lui, en fait. Toutes ces ordonnances sont là, mais si elles ne sont pas faites, si elles sont pas appliquées derrière par les forces de l'ordre ou par les magistrats et que ce n'est pas suivi, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là.
Donc aujourd'hui, vous êtes installée à Bourg-en-Bresse depuis 1 an. Pourquoi avoir choisi cette ville pour repartir ?
Du coup, donc, ça fait maintenant 4 ans que je suis séparée. Ça fait 3 ans que quelqu'un d'autre est dans ma vie. Un homme très bien qui, lui, était établi en Bresse. Donc on a d'abord pris le temps de poser cette relation ensemble, autant pour nous que pour mes enfants. Et du coup, pour moi, c'était la suite logique de dire c'est moi qui viens et qui te rejoins pour laisser toute cette vie d'avant derrière.
Vous avez créé une association au niveau national, Putain de Guerrières. À quel moment vous avez décidé de vous engager, d'être militante ?
Alors en fait, c'était il y a 2 ans. C'est la première fois que j'ai pris la parole publiquement sur un média national, donc sur France 2, dans une émission qui passe l'après-midi. Ça commence aujourd'hui chez Faustine Bollaert. Et du coup, j'ai apporté tout mon témoignage sur mon histoire. Nous étions donc 3 femmes à le faire. Et c'est vrai que pendant cette émission, à un moment, j'ai poussé un coup de gueule en fait. J'ai dit que non, les femmes battues, nous ne sommes pas du tout des femmes faibles et que c'est un tort de le penser. Parce que personne ne peut s'imaginer ce qu'on peut vivre chez nous une fois que la porte elle est fermée et qu'en fait on est des putains de guerrières et qu'on a juste besoin d'aide. Et en fait cet appel-là, ce cri-là, il a résonné à plein de gens, à des femmes qui étaient concernées et à des gens qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire d'être vraiment une femme battue, au-delà de s'imaginer qu'on sort avec des cocards. Et du coup, ça... Quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait derrière ça et le nombre de messages incalculables que j'ai reçus et que je reçois encore d'appels au secours, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça là. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc le nom, il a coulé de source. Ça a été putain de guerrière. Très vite, j'ai monté l'association. Et puis, très vite, ça a pris.
Et aujourd'hui, donc, vous vous sentez utile pour ces femmes battues ?
Oui, je pense qu'on a évité pas mal de drames. Je pense aussi qu'on a sauvé des vies. Je pense à toutes celles qu'on n'arrive pas à toucher, malheureusement. Maintenant, je sais que cette association, elle a lieu d'être parce qu'on intervient différemment de ce qui se fait déjà sur les structures existantes. Nous, on va être là en renfort et en urgence. Imaginons une femme demain m'écrit en me disant voilà, je suis battue depuis tant d'années par mon mari, j'ai 3 enfants, je veux m'en aller, aidez-moi. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, on la lâche pas et qu'on fait en sorte d'aller très très vite. Et surtout s'il y a un danger de mort voilà imminente, si on sait que l'homme il est armé ou qu'il y a des menaces qui ont été proférées, on prend ce qu'on a en argent et on fait une extraction. Et du coup, on lui prend des billets de train, on l'envoie à l'autre bout de la France, on lui trouve un hôtel, on trouve les solutions pour aller très vite, en fait. Parce que des places d'hébergement d'urgence en France, il y en a, mais il y en a très peu. Moi, à l'époque où je suis partie, la seule chose qui s'offrait à moi dans le département d'où je viens, dans les Hautes-Alpes, il n'y avait pas de place d'hébergement d'urgence. Depuis 5 ans, ont été créées, mais au départ, il n'y en avait pas. Et c'était un centre où on héberge aussi les SDF. Donc après, tout ce qu'on venait de vivre avec nos enfants... Avec mes enfants, c'était pas du tout adapté. Surtout, sachant qu'en général, c'est plutôt des hommes qui sont dans ces associations-là hébergées. Donc on peut pas tout mélanger. Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
Donc cette semaine, vous créez dans l'Ain, putain de guerrière. Pourquoi créer cette version locale de votre association ?
Putain de guerrière 01 va avoir exactement le même fonctionnement que Putain de guerrière nationale, hormis évidemment qu'on va rester sur le local. Dans l'Ain, il faut savoir qu'il y a une déléguée départementale qui est super, qui est très engagée, Pascale Guillet, que j'ai déjà rencontrée. Et elle manque cruellement de besoins. Quand vous discutez avec elle, elle connaît son budget sur le bout des doigts. À l'euro près, elle saura vous dire comment il est utilisé. Mais elle manque de besoins. Il y a l'association Ni Pute Ni Soumise qui est dans le haut du département, donc autour du pays de Gex, manque de besoins. Là-haut, il n'y a même pas de psychologue. Pour tout le département, il y a une psychologue et demie. C'est pas assez dans les commissariats. Des places d'hébergement d'urgence, il n'y en a pas assez non plus. Vraiment, voilà, les besoins sont immenses et la demande, elle est là. En plus, le département, il est vaste. En point de vue d'étendue de kilomètres, on est quand même dans des grandes. Il y a quand même des grandes villes. Il y a aussi des petites campagnes. Et dans le rural, en fait, on peut pas oublier les victimes parce que c'est souvent celles-là pour qui c'est le plus difficile de partir. Ce qui a été mon cas. Du coup, c'est vrai qu'après cet engagement national, je me suis dit, il faut qu'en local, on ait plus de solutions. Donc, on a, je pense, toutes les raisons de recommencer ici et d'être et d'exister. Malheureusement, on a besoin de nous.
Le Grenelle des violences conjugales organisé par Marlène Schiappa se termine le 25 novembre. Pour le collectif Nous Toutes, qui organise la marche donc du 23 novembre, les politiques publiques qui concernent ces violences conjugales sont insuffisantes. Est-ce que c'est votre avis aussi ?
Ah bien sûr, parce qu'en fait, donc de ce Grenelle, il faut savoir que vont émerger à peu près 60 propositions. Elle va retenir 60 propositions qu'elle va mettre en application. Elle en a déjà commenté quelques-unes. Ce Grenelle, pour moi, c'est juste une très grande farce. Parce qu'en fait, les propositions qui émergent de ce Grenelle, ça fait très longtemps qu'elles sont sur le bureau des concernés. Donc du coup, ils n'auraient pas dû attendre de communiquer autant autour de ce Grenelle. Ce gouvernement-là a choisi de faire de la cause des femmes sa grande cause du quinquennat. Quand cette annonce a été faite, j'en ai pleuré tellement que j'étais contente. Je me suis dit, c'est super, enfin, quelqu'un va prendre le problème à bras-le-corps et ça va changer. Et en fait, pas du tout, désolée pour les expressions, mais c'est des effets de manche sur le dos des victimes parce que clairement, c'est vide. Pour vous citer deux, trois exemples, elle a demandé, elle va garder en proposition, par exemple, une femme est tuée par son mari. Donc, évidemment, maintenant, à monsieur, on va lui enlever l'autorité parentale. C'est une aberration. Comment ça se fait? Comment se fait-il que ce ne soit pas déjà le cas? Autre chose, réquisitionner les armes à feu dès la première plainte. Mais comment se fait-il que ce ne soit pas déjà le cas? Le bracelet électronique, oui, c'est super. Sauf qu'il n'y en aura déjà pas assez pour tout le monde. Ça, c'est sûr, vu le chiffre qui a été annoncé. Mais c'est surtout que ce bracelet électronique, ça va être posé sous l'accord du monsieur violent et après le jugement. Donc, sachant qu'un jugement en France, c'est très, très long, la justice, elle est très lente, c'est pas assez. J'ai entendu, par contre, à l'inverse, des choses très intéressantes, comme avoir dans chaque tribunal un procureur qui ne fait que ça et dédié à ça. On dit oui, mais par contre, comme il n'y a pas un euro de plus qui va être mis dans ce budget-là, parce que dans le budget de Marlène Schiappa, il n'y a pas que les violences, c'est tout le secrétariat d'État à égalité homme-femme, il n'y aura pas un euro de plus qui va être mis. Donc même s'il y a des bonnes propositions qui sont sur la table et qui vont être mises, qu'elle propose de mettre en place, vu qu'il n'y a pas un euro de plus, on sait très bien que ça ne va pas être fait, malheureusement.
Est-ce qu'il y a des propositions auxquelles vous pensez qui pourraient faire avancer les choses ?
Il y a quelque chose déjà qui me paraît fondamental parce que c'est de là que tout commence, c'est la formation de tous les intervenants face à qui on est quand on dépose une plainte. Donc les services de police, de gendarmerie. Mais après, on va au-delà de ça. Les avocats, parce qu'il y a plein d'avocats aussi qui ne sont pas sensibles. C'est pas tout à fait le mot que je voudrais employer, mais qui n'ont pas, on va dire, cette fibre aux violences conjugales et qui, du coup, ne savent pas comment fonctionne. C'est un schéma particulier et c'est très important de le maîtriser pour pouvoir bien défendre les victimes. En tout cas, c'est mon avis. Les procureurs, les juges, tous ces gens-là doivent avoir des formations. Et au-delà de ça, les médecins, les sages-femmes, les infirmières dans les hôpitaux. Sauf que c'est tout aujourd'hui des services qui crient au secours parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est difficile à eux de leur en demander plus, même si on est face à des humains qui ont envie de faire. À mon sens, à moi, une femme qui dépose plainte devrait pouvoir bénéficier de ce que j'appelle un pack violence, où dedans, tout serait compris. C'est-à-dire, on l'accompagne dans son dépôt de plainte, on lui explique qu'il est important qu'elle dise tout. C'est très important que la plainte soit bien actée. Et ensuite, derrière, on la suit. Éviction du conjoint violent, si c'est thématique du domicile, c'est pas à la femme de partir après tout ce qu'elle a vécu avec ses gamins. Nous, on a vécu un mois en cavale, c'est pas une vie après ce qu'on vient de vivre. Ça doit plus être comme ça. En plus de l'éviction, ensuite derrière, il faut qu'il y ait un vrai suivi. Il faudrait qu'il y ait des psychologues dédiés dans toutes les maisons, des solidarités qui ne fassent que ça aussi, qui prennent en charge la maman, mais aussi les enfants. Les enfants, faut pas les oublier, c'est des petites victimes collatérales qui, si elles n'ont heureusement, j'espère, pas été touchées par le conjoint violent, elles ont forcément été témoins de choses. Elles vivent dans la même maison, donc il faut s'occuper de ces enfants-là. Et si c'est des femmes qui sont en précarité, en situation de précarité, parce que la majorité du temps, ce sont des femmes qui sont isolées de tout. Si elles travaillent, on leur garde leur argent, ce qui était mon cas. Et quand elles ne travaillent pas, elles sont sans ressources. Donc il faut forcément qu'il y ait des minima sociaux qui soient mis en place très vite. Donc un RSA, des allocations familiales, mais c'est tout de suite en fait qu'elles ont besoin. C'est pas dans 6 mois, c'est tout de suite. Donc il faudrait imaginer ce pack-là. On a tous les outils pour le faire. Mais vraiment, c'est pas difficile à mettre en place. Il suffit juste de le dire, on le fait.
C'était Clémence Raguet, la créatrice de l'association Putain de Guerrière et de sa version locale dans l'Ain. À Bourg-en-Bresse, la manifestation pour dénoncer les violences faites aux femmes débutera samedi 23 novembre à 14h sur la place Louis Blériot.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
À la Maison des Jeunes et de la Culture de Bourg-en-Bresse, Pauline Monin, la chorégraphe, présente pour la première fois son spectacle « La rivière sous la rivière ». Ce conte, qui mêle danse, lumière et musique, raconte l'histoire d'une jeune fille abusée sexuellement. Elle est directement inspirée de la vie de Pauline Monin, qui a été victime d'un viol dans son enfance. Au début du spectacle, la lumière chaude, orange, montre la naïveté de l'enfance. Et puis le rythme de la musique s'intensifie et un bruit assourdissant représente la violence. L'héroïne doit alors lutter pour reprendre possession de son corps et guérir. Ce spectacle a été créé en 2 ans par Pauline Monin. Il est inspiré du livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Sur scène, c'est la danseuse Alice Botello qui joue la jeune femme et Sylvain Nallet rythme les séquences en musique avec la clarinette basse ou encore l'accordéon. Un spectacle poétique qui ne laisse pas indifférent. Il sera joué avec un temps d'échange à la fin pour engager une discussion sur les violences sexuelles. À la fin du spectacle, nous avons rencontré Pauline Monin dans les coulisses pour qu'elle nous parle de sa création et de son histoire. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi avoir fait ce spectacle ?
À l'origine du spectacle, c'est vrai que j'étais vraiment dans cette envie de créer un hommage à la femme, à son pouvoir de guérison, à sa résilience. Maintenant, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette forme-là et je ne pensais pas en parler. Je ne pensais pas que ça deviendrait un témoignage, en fait. Et c'est petit à petit que j'ai senti comme une nécessité quelque chose aussi. Parce que c'est aussi important, je pense, de soulever en fait ce couvercle pour moi du tabou, en fait. Parce que c'est vrai, quand on parle d'agression sexuelle sur la petite enfance, ça éveille des peurs, des angoisses. On n'a pas forcément envie d'en parler.
Est-ce que vous, votre histoire, vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors oui, je peux en parler maintenant. Voilà, alors moi, c'est un adolescent de mon quartier. Qui s'est immiscé un peu dans nos jeux d'enfants parce que je joue avec d'autres enfants et qui a commencé à proposer ses propres règles et qui a abusé de moi. C'est des actes de viol en fait. Et quand j'ai dit non, il m'a menacée de le dire à tout le monde. Donc à ce moment-là, moi, j'ai petite fille, j'ai intégré que j'étais la coupable, vraiment. Il m'a traité de tous les noms. Enfin, il a été vraiment violent, par les mots en tout cas. Et donc, pour moi, c'était il ne faut surtout pas en parler. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une grosse bêtise. Et donc, j'ai tenté tant bien que mal de pas en parler. Voilà, alors maintenant, je vois qu'il y avait mon corps qui parlait parce que j'ai fait beaucoup de cystites, enfin des infections urinaires, des choses qui ne pouvaient pas s'exprimer. Voilà, je le sais. Et puis bon, à l'adolescence aussi, j'en ai parlé à ma mère, mais j'étais vraiment avec beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et elle, je pense qu'elle n'a pas compris qu'il était adolescent ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle a préféré me dire que ce n'était pas grave. Donc je l'ai cru. Je l'ai cru pendant de nombreuses années. Mais j'ai développé d'autres symptômes de boulimie, en fait. J'ai eu de graves troubles alimentaires, qui étaient plus ou moins, apaisés quand je dansais. Enfin, voilà, je pense que j'arrivais aussi à calmer mes émotions grâce à la danse. Mais avec beaucoup de souffrance et tout. Et puis après, ça s'est vraiment exprimé vers les 18-19 ans où j'étais vraiment à un moment donné où c'était plus possible, j'étais en grande souffrance et c'est sorti dans un cabinet de thérapie parce que donc j'étais beaucoup trop, je faisais beaucoup trop de boulimie à ce moment-là. Et donc c'est un psychiatre en fait qui m'a demandé, qui m'a posé des questions sur mon enfance. Et moi, je lui disais que c'était rien de grave, voilà, mais j'étais vraiment persuadée de ça. Je comprenais pas ce qu'il me racontait. Donc, je lui ai expliqué les faits, exactement ce qui s'était passé. Et donc, lui, il m'a nommé les choses, que c'était des agressions sexuelles, ça s'apparente à du viol. Enfin, il m'a expliqué en fait là à ce moment-là ça m'a pris des années en fait à vraiment à dénouer les choses, à comprendre en fait ce qui m'était arrivé et puis j'ai trouvé du soutien petit à petit quoi, je me suis réapproprié mon corps par des pratiques aussi corporelles. De la parole, mais aussi beaucoup de choses autour du corps, en fait.
Et vous aviez quel âge au moment de l'agression ?
J'avais entre 6 et 7 ans.
Mmh. Et vous trouvez ça important ? J'ai vu que votre spectacle était... les plus de 8 ans peuvent venir le voir, même si c'est un spectacle assez dérangeant quand même. Est-ce que c'est important pour vous que dès le plus jeune âge, même les enfants, même s'ils n'ont peut-être pas toutes les clés, ils puissent voir ce genre de spectacle qui dénonce les agressions et les abus sexuels ?
Moi, je trouve ça très, très important, effectivement. Je pense que c'est parce qu'il va y avoir... de la parole, de la médiation, que ça soit artistique, en voyant des spectacles, mais de la discussion, de nommer les choses, de leur permettre en fait de parler, de la conscience du consentement par exemple, c'est tout bête, mais un oui, un non, qu'est-ce que c'est, de rapport à son corps. Du rapport au corps de l'autre, et c'est très important.
Et votre spectacle, donc vous m'avez dit que c'était un processus qui s'est fait, ça s'est allé plus vers le témoignage au fur et à mesure de la réflexion. Vous l'avez pensé comment ? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer au travers du spectacle et qu'est-ce que vous voulez que les spectateurs retiennent en fait ?
J'ai toujours sous-tendu ce spectacle avec l'envie qu'on ressorte avec cette idée de la guérison, de la résilience. Pour moi, c'est très, très important de parler de ça. On s'en sort, voilà. Et une autre chose aussi, c'est que parlons-en, voilà, parlons-en. C'est important de dans notre société, en fait, de lever les rideaux sur tous les tabous. Parlons de sexualité avec nos enfants, trouvons les mots. Moi, c'est venu très, très récemment, cette idée de vraiment témoigner de mon histoire. Mais ça vient vraiment dans cette idée-là que ça puisse aussi... peut-être permettre à d'autres qui se sentent prêts mais qui ne feraient pas la démarche d'en parler, de se dire que c'est possible, quoi. Voilà. Et plus il y aura de lumière faite là-dessus, ça permettra en fait de pas reproduire ce genre d'événement, en fait.
Et donc, depuis que vous savez ce qui s'est passé, donc vos 18 ans à peu près, comment vous avez réussi à aller dans cette résilience dont vous parlez dans votre spectacle ?
C'est vraiment des étapes, en fait. C'est petit à petit. Alors, c'est déjà... Il y a une démarche. Il faut aller trouver sa maman intérieure et puis aller chercher de l'aide. Il ne faut pas rester seul avec ça, en fait. Aller chercher... des personnes qui sont formées pour accueillir ce genre d'événements, et qui soient capables de nous soutenir là-dedans. C'est pas évident parce qu'on va toucher là où ça fait mal, vraiment. Donc les premiers temps, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup d'émotions. Mais on doit en passer par là, en fait. Parce que moi, je dis toujours, les pleurs, ça nettoie, en fait. Ça lave de tout ça, de toute la colère aussi. Alors pareil, je pense qu'on trouve aussi des moyens d'exprimer sa colère, enfin voilà, ça c'est important. Et je dirais, c'est vraiment par étapes. Il y a des moments où on sent que, on est complètement libre de ça, et puis il y a un événement dans la vie qui rappelle que, ah bah oui, donc on retraverse un peu les choses, les émotions, mais j'ai l'impression qu'on nettoie à chaque fois plus les plaies, quoi, voilà, jusqu'à trouver des plaies qui deviennent des vraies cicatrices bien fermées. Et dans le livre de Clarissa, elle dit justement que les cicatrices, c'est bien plus costaud que la peau, la simple peau. Donc voilà, il y a un très beau passage sur le clan des cicatrices. Toutes ces femmes qui ont réussi finalement à cicatriser leurs plaies et qui en deviennent plus fortes.
C'était Pauline Monin, la chorégraphe du spectacle La rivière sous la rivière. Il est joué le 21 novembre à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux à 20h30 et aussi le 10 mars 2020 au théâtre Cantor à Lyon.
Radio B. Radio B.
Restez avec nous dans un instant. Camille Grangeard vous présente sa double interview sur les produits du terroir.
Je veux être une étoile, pas un feu d'artifice. Je ne veux pas de voile, sac à malice. Non, je suis pas l'être suprême, je ne suis que moi-même. C'est du pareil au même, et c'est pour ça qu'on m'aime. Je suis blond et je suis l'or, c'est cela qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond et je suis l'or, un alchimiste. Je m'en foutiste. Marrant et magnifique. Je veux qu'on reconnaisse un phénomène unique, une divine ivresse. Ma bouille de tutu, ma crête cacato ice. Ce ne sont pas des copies, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je suis blond et je suis l'or, cela qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond et je suis l'or, un alchimiste, je m'en foutiste. Ma dégaine et ma voix, j'appuie les défauts, sans pour vous quelle joie, d'adorable joyau. Je veux être moi-même, même si j'ai rien pour moi. C'est ça que je veux quand même, c'est ça que je veux qu'il soit.
C'était l'alchimiste de Mathieu Chédide. M est en concert le 21 novembre à 20h sur la scène d'Equinox à Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Bonjour Camille.
Bonjour Inès, bonjour à toutes et à tous.
Vous allez nous ouvrir l'appétit Camille, cette semaine vous vous êtes intéressée à la gastronomie locale.
J'ai rencontré deux acteurs locaux dans deux lieux emblématiques de la Bresse, ils nous décrivent l'influence du local dans nos assiettes. On part de la brasserie Le Français à Bourg qui a près d'un siècle et demi d'expérience. Son chef cuisinier nous explique leur partenariat avec la laiterie des Traits, une coopérative créée à la fin des années 30. Son beurre et sa crème AOP sont particulièrement utilisés dans la cuisine locale.
Nous sommes avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse dans la fameuse brasserie Le Français. Il est 9h et les casseroles sont déjà sur le feu. Le chef cuisinier Gérald Ligonnet et son équipe préparent le repas. C'est le poulet de Bresse qui mijote, un plat typique de notre terroir.
Ceci est un poulet de Bresse, donc on préfère prendre des femelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus moelleuses, elles sont plus généreuses que le poulet à proprement dit. Donc voilà, c'est une pillette en fait de Bresse. Donc on travaille avec un producteur local qui s'appelle Christophe Billot, qui se situe au Mapomier à Saint-Étienne-du-Bois. Donc c'est un poulet qu'on achète évidé, donc c'est-à-dire il n'y a plus les éviscères, mais tout le reste est à l'intérieur. Donc ensuite il est coupé en 4 portions. Il est rissolé au beurre et ensuite il est décanté, on dégraisse, on met une garniture aromatique avec des oignons, des carottes, des branches de céleri, du poireau, avec du thym, du laurier, bref, une garniture aromatique. Ensuite il est déglacé au vin blanc, il est cuit donc dans son bouillon de volaille, donc déglacé à l'eau et donc cuit comme ça environ 45 minutes. Et ensuite, on extrait donc la volaille, on la désosse totalement, de façon à ce que le client n'ait plus les os et tous les inconvénients qui vont avec. Et ensuite, on termine la sauce par une liaison avec de la crème des Traits. Donc c'est de la crème gastronomique, hein, c'est les sauts gastronomiques, pas les sauts doubles ou triples.
Et Traits a toujours travaillé beaucoup avec les professionnels. Boulanger, pâtissier, restaurateur. Et on a beaucoup de grands noms, y compris parisiens, qui travaillent avec nous. On a des conditionnements. Les crèmes, par exemple, elles se font en petits pots, puis elles se font aussi en seau de 5 litres pour les professionnels. Mais c'est toujours la même crème que pour le particulier.
Monsieur Le Squezec, le directeur de la laiterie des Traits. Il nous fait faire un petit tour de cette coopérative.
Donc nous avons plusieurs lignes de conditionnement de la crème, suivant qu'on va faire des crèmes épaisses qui sont dans des pots classiques. Hein, donc c'est soit une crème étrée classique, soit une crème AOP, ou alors sur une autre chaîne qui ne tourne pas ce matin, où on va faire les pots en verre qui, avec la crème gastronomique, ou les bouteilles de crème fleurette. Ce sont deux chaînes différentes. C'est produit dans le même atelier et il y a des jours où on fait l'une, le jour où on fait l'autre. Et quand on fait ces crèmes, par exemple la crème épaisse étrée ici, tout à l'heure, les opératrices elles vont faire des sauts de 5 litres de la même crème qui seront mis en palette pour les restaurateurs, pour les pâtissiers.
Les produits sont tous locaux. Moi, c'est mon cheval de bataille. De façon à travailler déjà au niveau national, j'évite de sortir outre les frontières et c'est l'agriculteur en France qui tire la langue sans qu'on aille chercher les produits ailleurs. Donc oui, essentiellement, en tout cas pour le produit local de Bresse, tout est exclusivement du coin, que ce soit le beurre, c'est la laiterie des Traits, la crème c'est la laiterie des Traits, les volailles c'est un volailler local. Voilà. Après le sel, le poivre, je ne vous dis pas que ça vient de local, mais voilà.
Vous êtes en Bresse, et c'est une fierté, même en dehors de l'AOP, nos produits sont typiquement bressants, revendiqués comme tels, et effectivement, une laiterie comme Traits, elle est de la Bresse. Le lait vient de la Bresse, les opérateurs, les salariés vivent tous autour de la laiterie. Et on a développé une gamme de produits qui est très identifiée à la laiterie des Traits. On est sur des produits qui sont plutôt premium et affichés comme tels, d'où le fait d'ailleurs qu'on travaille en produits pasteurisés et non pas en UHT, ce qui permet d'avoir des produits beaucoup plus marqués en goût et avec une vraie typicité. Les restaurateurs, ce qu'ils vont apprécier dans nos produits, c'est le goût, bien entendu, la tenue et la tenue à la cuisson. Les pâtissiers, ils vont apprécier les crèmes voilà, pour leur qualité technique et les beurres pour leur tenue à la cuisson. Et ça, c'est vraiment pour eux, c'est un des points qui revient régulièrement. On est chez Ducasse à Paris, on a Perret, donc le pâtissier du Ritz, qui a été élu la semaine dernière meilleur pâtissier du monde par ses pairs, qui ne travaillent que nos produits. On est au Georges V et la gamme Métro Premium, on parle bien de la gamme Métro Premium en crème et en beurre, c'est du beurre et de la crème d'Étré. Donc c'est preuve que, y compris dans d'autres régions où on n'aurait pas accès, je pense au Midi, on ne va pas les livrer, ça fait loin pour nous, mais des grands chefs ont accès à nos produits sur cette gamme premium.
Vous allez chercher de la crème Elevir, où ils ont pris des laits qui viennent d'à peu près de toute l'Union Européenne et tout ça. Vous allez voir, vous faites la même recette avec une crème de Elevir et une crème de Détré. Vous aurez un résultat qui va être totalement différent. Après, bien sûr, au niveau des produits, le beurre, c'est pareil. Un beurre, nous, c'est du beurre baratté. On prend en grosse motte. Le beurre baratté, il crame beaucoup moins. Enfin, voilà. Après, c'est toute une question de rendu final qui fait qu'on préfère choisir des produits locaux, même si des fois, ils sont un peu plus chers. Mais bon, voilà. Après, ça se retrouve sur la qualité du produit, sur la finalité, quoi. Après, quand on veut vraiment un produit qui soit classé et qu'on veut, on veut être sûr de sa provenance et on veut être sûr un petit peu de l'endroit où il vient, il faut qu'on se reporte sur des produits qui soient AOC, sur des IGP ou des choses comme ça. Nous, on travaille des produits qui viennent du sud-ouest, qui sont des produits IGP. Et là, vous êtes à peu près sûr de ce que vous allez trouver dans votre assiette. Ouais.
Alors, quelle est la différence entre le beurre de Bresse et le beurre d'Étré, entre les crèmes de Bresse Étré et puis les crèmes d'Étré qui ne sont pas en AOP? La première des différences, ça va être le lait. Il ne vient pas des mêmes exploitations. Tout ça, c'est tracé, c'est des tournées de collecte qui sont différentes. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est entre autres les méthodes d'élevage des animaux. Il y a la garantie que les animaux aillent au pâturage. Et puis, il y a un certain nombre de garanties sur l'origine de l'alimentation en provenance de l'exploitation. Donc il y a un cahier des charges producteur qui est assez contraignant. Pour ce qui est du traitement du produit, à Étré, il n'y a pas de différence. On va traiter les crèmes et les beurres de la même façon. Il n'y a aucune différence. Après, par contre, et notamment sur le beurre, le beurre qui est produit à Étré, il est produit à partir de crèmes fermentées. Il est ferment comme dans les yaourts. C'est la tradition en Bresse. On fait fermenter les crèmes pendant 24 heures pour développer des arômes, pour éviter que ce soit des mauvaises bactéries qui se développent. Les ferments sont des bactéries, mais des bactéries sélectionnées. Et en ce qui nous concerne, entre le beurre AOP et le beurre d'Étré, on n'a pas les mêmes ferments. Ce qui fait qu'on va développer des arômes. Alors, il y a d'une part l'origine du lait qui est différente, mais après, il y a le fait de choisir des ferments différents qui va donner des arômes différents. Concernant la crème gastronomique semi-épaisse, elle, on ne la vend qu'en AOP. Puisque justement, on était sur un produit haut de gamme. Donc, le choix qu'on a fait, c'est que du départ, on est sur du lait qui vient de ferme AOP et toute notre crème gastronomique aujourd'hui est vendue en AOP. Pour les crèmes épaisses, par contre, la laiterie d'Étré est ancienne, on avait des consommateurs qui avaient l'habitude d'utiliser de la crème d'Étré, on a gardé la crème d'Étré et on a développé une gamme AOP à côté qui nous permet d'avoir un produit un peu plus haut de gamme et d'aller sur des marchés un petit peu plus loin. Quand on arrive sur Lyon, quand on va sur Chalon, sur Dijon, on arrive avec un produit AOP, on est mieux entendu, on a une différence par rapport à nos confrères. Alors pour obtenir une AOP en Bresse, il a fallu 12 ans, donc c'est très compliqué. Oui, c'est long, c'est difficile, il y a beaucoup d'étapes à passer, et puis surtout, il faut la garder. C'est-à-dire qu'il faut faire des produits d'excellence. On est audité, nous, régulièrement, nos producteurs sont audités, c'est pas une petite affaire. C'est une vraie fierté de la Bresse d'avoir des produits en AOP et de pouvoir communiquer dessus. Il n'y a pas de fromage traditionnel originaire de Bresse. Le comté, il vient du Jura et du Doubs. Et le fait d'avoir une AOP beurre et crème, ça nous permettait de nous différencier et puis d'afficher nos couleurs, j'allais dire. Voilà.
« un savoir-faire local et reconnu que vous pourrez voir à l'écran. La crème de Bresse sera mise à l'honneur dans Objectif Top Chef sur M6 le 26 novembre à 18h35.
Merci Camille Grangeard, c'est la fin de ce numéro d'Avoue les Burgiens. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.